C'est-à-dire, c'est Dieu qui nous permet de vivre ces choses pour qu'on puisse comprendre d'autres choses, hein, des choses spirituelles, des vérités spirituelles. Et alors, ben, c'est un peu notre responsabilité de les partager. Donc, c'est ce que je veux faire ce matin. C'est une parabole vécue. Voilà. Alors, bien sûr, je n'arrive pas à vivre moi-même tout ce que je vais vous partager. Donc, il y a eu une époque où ça aurait pu me bloquer, ça aurait pu m'empêcher de le partager. Mais je crois que c'est important quand même de parler de ces choses, parce que ça peut nous faire tous avancer. On est tous en chemin, on n'est pas arrivé. Mais plus on entend ces choses, ben, plus on avance avec Dieu. Donc voilà, j'en parle quand même. Alors, si vous avez vous-même, en entendant d'autres révélations, ou bien si vous avez déjà reçu d'autres révélations sur le corps, le fonctionnement du corps, n'hésitez pas à venir m'en parler à la fin, parce que franchement, moi, je veux en savoir plus. C'est vraiment un sujet qui me passionne. Je trouve ça extraordinaire que Dieu nous ait rassemblés, nous ait mis ensemble, des personnes tellement différentes les unes des autres, et puis face à un corps avec nous. Une entité qui doit marcher ensemble, qui doit fonctionner ensemble. À vue humaine, c'est incompréhensible, mais pourtant Dieu le fait. Donc, n'hésitez pas, si vous avez d'autres éclairages, hein, je suis preneuse. Voilà, voilà. Oui. Alors, donc, il y a un peu plus de 2 ans et demi maintenant, en été 2008, je me suis coupée l'index gauche, au niveau là, entre les deux phalanges. Et sur le coup, c'était tellement profond donc, que la dernière phalange, là, de mon index, était presque entièrement détachée de mon doigt, donc du reste du corps. Hein. Donc, je ne vous dis pas ça pour vous affoler, hein, c'est cool, hein. Mais bon, il faut bien que je donne des détails, il faut pouvoir après expliquer les détails. Je ne veux pas que personne ait de problème à cause de ça. Je suis vivante, hein, c'est bon. Mais donc, c'était quand même quelque chose de profond. Hein. Et pourtant, sur le coup, j'ai quasiment rien ressenti. Il y a eu un flash de douleur, tout de suite, mais après, c'est comme si mon doigt était endormi. Comme si je ne sentais rien du tout. Il était anesthésié, je ne sentais rien. Donc, ça m'a fait, après coup, réfléchir. Mais quand il y a une blessure comme ça dans le corps, comment ça se fait qu'on peut ne pas s'apercevoir? Si quelqu'un est vraiment blessé, quelquefois on peut ne pas s'en apercevoir. Est-ce que c'est parce que la blessure de la personne n'affecte pas vraiment le corps? Ou bien est-ce que c'est parce que le corps en fait s'autoprotège en quelquefois minimisant les blessures des autres, enfin des autres membres du corps? Je laisse ça à votre appréciation. En fait, moi, je me suis aperçue que j'étais vraiment blessée. Mon corps était vraiment blessé. Ça saignait très fort, tellement fort que j'ai failli tomber dans les pommes. J'ai eu ce qu'on appelle un malaise vagal, c'est-à-dire une chute de tension, et j'ai failli tomber dans les pommes. Je tenais plus sur mes jambes. J'ai dû m'asseoir parce que je flageolais complètement. Voilà. Pas parce que je suis impressionnée par la vue du sang. La vue du sang sur moi-même, ça ne fait rien, mais parce que ça provoquait une chute de tension. Donc, il y avait une réelle blessure. Et donc voilà, ça aussi, ça m'a fait penser que pourquoi cette perte de sang, ce saignement, ça a provoqué une chute de tension, ça a failli me faire tomber dans les pommes. Hein. Ben, c'est parce que tout simplement, c'est une vérité que vous connaissez, le sang, c'est la vie. Donc quand il y a une perte de sang, eh ben, il y a quelque part une partie de la vie du corps qui s'en va. Et c'est pour ça que ça a fait ce malaise. Et c'est la même chose pour nous. À chaque fois, je vais faire le parallèle avec les vérités spirituelles. Hein. On est le corps de Christ, hein. on est son corps, on est chacun ses membres, on est membres les uns des autres. Et si un membre est coupé du corps, ou presque coupé du corps, eh bien, ça enlève de la vie au corps. C'est pas anodin du tout. Et ça, c'est une vérité que j'ai mis vraiment longtemps à comprendre. Pendant des années et des années, j'ai cru que si j'avais des problèmes, si je m'isolais un peu du corps, ça ne regardait pas les autres, que ce n'était pas important pour eux, qu'à la limite, si je leur en parlais, ils ne pourraient pas m'aider, et en tout cas, que ça ne leur faisait rien, que ça n'avait aucun impact sur le corps si moi, je m'isolais. C'était mon problème, et puis voilà tout. Le corps, il n'en serait pas affecté pour autant. Et bien là, je me suis aperçue que ce n'est pas vrai. Alors, j'ai trouvé un passage dans la parole de Dieu qui en parle très clairement, parce que c'est bien beau de vivre des choses et d'avoir des révélations par rapport à ce qu'on vit, mais c'est important que ce soit fondé sur la parole de Dieu, que ce ne soit pas simplement des pensées qu'on a. Donc dans la parole de Dieu, il y a un passage qui est vraiment très très clair, c'est... oui, c'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 26. Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et dans le même verset, il y a la vérité complémentaire. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est quelque chose qui fonctionne dans les deux sens. Donc en fait, on n'est pas indépendants les uns des autres. Ce qu'on vit affecte le corps tout entier. Et pendant longtemps, quand je lisais ce passage, comme ça venait juste après une exhortation à être vraiment unis les uns aux autres, ben je me disais, ce passage, en fait, ça veut dire, si un membre souffre, eh ben on devrait souffrir avec lui, au conditionnel. Si un membre est honoré, on devrait se réjouir avec lui, au conditionnel toujours. Et j'ai vérifié, donc, bon, dans ma Bible, c'est en français, c'est au présent, mais j'ai vérifié dans une Bible anglaise, parce que je fais plus confiance aux traductions des Bibles anglaises, elles sont souvent plus près du texte original. Alors, comme je ne connais pas l'hébreu, je vérifie dans les Bibles anglaises, chaque fois que j'ai un petit doute. Donc j'ai vérifié, et en effet, dans la Bible anglaise, c'est aussi au présent. Si un membre souffre, chaque membre souffre avec lui. Pas devrait souffrir, mais souffre, c'est une réalité. Même si on ne s'en aperçoit pas, même si on essaye de l'oublier, de l'édulcorer, de limiter ça. Si un membre est honoré, chaque membre se réjouit avec lui, c'est aussi une réalité. On n'est pas des électrons libres, hein, on est vraiment un corps, et c'est une réalité spirituelle. Pourtant, juste une phalange, la dernière phalange, d'un doigt, une phalange d'un seul doigt, c'est tout petit dans le corps. Donc ça aurait pu très bien ne pas être important du tout que cette phalange souffre. Pourquoi le corps tout entier devrait être affecté? Mais c'est parce que c'est une réalité spirituelle. Donc cette blessure, ça faisait saigner le corps, ça lui ôtait une partie de sa vie, ça l'affaiblissait énormément. J'étais juste après, j'ai pas pu aller à l'hôpital tout de suite parce que j'étais comme endormie. Ma maman qui était juste à côté de moi me parlait, je l'entendais comme dans un brouillard, je l'entendais très vaguement. À un moment, je ne l'entendais même plus du tout. J'avais les oreilles comme bouchées. J'étais vraiment dans le cirage, quoi. Sur le point de tomber dans les pommes. Je ne voyais plus distinctement, ma vue était toute brouillée, j'étais incapable de penser à quoi que ce soit. Heureusement que juste avant d'être dans cet état-là, je lui avais demandé de m'apporter un bol d'eau. C'est la réaction que j'ai eue tout de suite. Et donc, après ça, j'ai plongé mon doigt dans l'eau. Alors avant de dire ça, quand même, je dis quelque chose d'important. Donc si on se dit en fait que ce qu'on vit, comme ce que je me suis dit pendant des années, hein, si on se dit que ce qu'on vit n'affecte pas les autres, que c'est pas important pour eux, ça n'a pas d'impact pour eux, eh bien on a accepté un gros mensonge. Il faut vraiment renoncer à ce mensonge et oui, vraiment l'éradiquer comme une pensée. Parce que c'est quelque chose qui nous empêche d'être avec les autres, qui cherchent à nous isoler. Et celui qui cherche à nous isoler, eh bien, c'est l'ennemi de nos âmes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important. Donc ensuite, j'ai en effet trempé mon doigt dans l'eau. Donc le saignement ne s'est pas arrêté tout de suite, mais il a fini par s'arrêter. Et en fait, ma blessure n'était pas propre du tout, puisque quand je me la suis faite, j'étais en train de jardiner. Donc elle était pleine de terre et de bouts de feuilles. C'était pas propre du tout, n'est-ce pas? Et donc l'eau a nettoyé ma blessure. Alors l'eau, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement la parole de vie. Il y a aussi un passage qui en parle, hein, c'est quand Jésus dit à la Samaritaine, c'est dans Jean 4, verset 14, « Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. » Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Il parlait bien sûr pas de l'eau physique, il parlait de l'eau qui était la vie de Jésus en nous, c'est-à-dire la parole de Dieu en nous, la parole vivante de Dieu. Donc cette eau, elle nous lave déjà. Et elle nous purifie aussi, elle a purifié cette blessure. Et cette eau, elle nous redonne aussi la vie, puisque... Au bout d'un moment, le saignement s'est arrêté complètement. Pourtant, il n'y avait pas encore de pansement, il n'y avait rien, hein, mais le saignement s'est arrêté complètement, avec l'eau, l'effet de l'eau. Donc l'eau a bloqué
le fait que la mort sorte de mon, enfin, que la mort vienne dans mon corps, que la vie sorte du corps, quoi. Il a bloqué cet épanchement de vie par le sang et il a redonné la vie à mon doigt. Donc c'est aussi une vérité importante, quoi. La parole de Dieu remplie d'Esprit Saint, ben, ça a le pouvoir de laver les blessures de nos âmes aussi, hein, pas seulement de nos corps, de les purifier et de redonner la vie là où la mort a cherché à agir. Et ensuite, donc, je suis allée d'abord aux urgences, c'était la première réaction. Hein. Aux urgences, donc, ils ont désinfecté mon doigt, ils m'ont fait une piqûre de sérum anti-tétanique parce que j'étais pas à jour dans mes vaccinations. Évidemment, on pense jamais que ça va nous arriver, ce genre de choses, donc voilà. Donc bon, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, mais ils n'ont pas pu recoudre mon doigt, parce qu'à l'intérieur, les tendons étaient aussi détachés, ils avaient commencé à se rétracter. Donc ils ont dû m'envoyer, puisqu'il fallait une chirurgie spéciale qui puisse aussi rattraper les tendons, les réattacher, je ne sais pas trop ce qu'ils ont fait, hein. Je n'ai pas tout compris. Ils ont dû m'envoyer dans un service hospitalier spécialisé pour les mains, la chirurgie des mains et des pieds. Donc c'était dans un autre hôpital. Et ça m'a fait aussi penser après coup, sur le coup, bon, j'ai pas trop compris, je me suis dit, ben, ils sont des urgences, normalement, ils devraient pouvoir réagir à tout. Mais en fait, après coup, j'ai compris que, en fait, chacun a des dons particuliers et des appels particuliers dans le corps. Et donc, ça m'a fait penser, bon, j'ai trouvé aussi un passage là-dessus, hein, c'est Romains 12, du verset 3 au verset 8. Alors là, je ne l'ai pas noté entièrement parce qu'il est un peu plus long. Donc c'est juste après le fait que donc Paul, mais au travers de Paul, le Seigneur nous demande d'offrir nos corps comme un sacrifice vivant, etc. Hein. Donc juste après ça, il est dit donc, par la grâce qui m'a été donnée, donc c'est Paul qui dit ça, je dis à chacun d'entre vous d'avoir non pas des préoccupations ambitieuses et contraires à celles qu'on doit avoir, mais la préoccupation de se conduire sainement, chacun selon la mesure de foi que Dieu lui a départi, ou chacun selon le domaine où Dieu lui a donné des capacités. Après, c'est un peu plus précisé. En effet, comme nous avons plusieurs membres dans un seul corps et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ et nous sommes tous membres les uns des autres, nous dépendons les uns des autres, nous sommes attachés les uns aux autres, mais nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Donc ensuite, il est parlé de plusieurs dons. Dans d'autres passages, il y a d'autres dons qui sont cités. Donc là, il est dit que celui qui a... Donc là, je prends la traduction anglaise pour une partie. Hein. Je la trouve plus claire. Que celui qui a le don de prophétiser, prophétise avec la foi qu'il a. Que celui qui a le ministère de servir, le fasse dans un esprit de service. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, que celui qui exhorte s'attache à l'exhortation, et que celui qui donne le fasse avec simplicité, celui qui préside avec zèle, celui qui pratique la miséricorde avec entrain, avec joie. Donc, dans d'autres passages, il est parlé d'autres dons. Hein. Et c'est vraiment important que chacun fonctionne dans son don, ou dans ses dons, s'il y en a plusieurs, qu'il fasse les tâches qui ont été préparées d'avance pour lui, parce que c'est dans ces tâches-là qu'il pourra vraiment, qu'il pourra vraiment s'exprimer, et puis voilà, qu'il sera vraiment efficace, quoi. Tandis que s'il essaye d'accomplir des tâches qui ne correspondent pas à ses dons, hein, et quelquefois on fait ça, hein, parce que bon, on se compare un peu aux autres, on aimerait bien faire comme un tel ou comme un tel, alors on essaye de faire pareil, et puis on se plante, et puis on se demande pourquoi, et il y a l'amertume qui vient, etc., etc. Tout ça parce qu'on a essayé de fonctionner dans un domaine qui n'était pas notre domaine, qui n'était pas notre part. Hein. Et c'est pas du tout un problème de comparaison, c'est un problème de complémentarité dans le corps. Chacun a des dons, et si chacun met au service des autres les dons qu'il a, alors le corps fonctionne. Il n'y a pas besoin, il n'y a pas un don qui est plus grand qu'un autre ou qui est mieux qu'un autre. Même les ministères ne sont pas plus importants que les gens qui ont simplement des dons sans avoir un grand ministère. Non, c'est pas. On a tous un ministère, le ministère d'être sacrificateur pour Dieu. Ça, on l'a tous. Hein. Et bon, c'est pas. Si on commence à se comparer, et ça aussi, moi je l'ai fait souvent intérieurement, hein, eh bien ça provoque de l'amertume et ça nous empêche d'exercer nos dons. et ça nous empêche de faire ce que nous, ce pourquoi on a été fait, et on rate le but complètement. Et quelque part dans le corps, il y a aussi un trou, quoi, un manque. Ça, on le verra peut-être un petit peu après. Voilà. Donc, si par contre on fait chacun ce pourquoi on est fait, hein, ce pourquoi on est préparé, ce pourquoi on a des capacités particulières, ce où on va être à l'aise, où voilà, les autres vont peut-être s'étonner de nous voir faire telle ou telle chose parce qu'eux ne le feraient pas comme ça ou ne sauraient pas le faire du tout, mais nous on pourra le faire, et bien alors c'est ça qui s'appelle mettre au service des autres le don qu'on a reçu. C'est ce qui nous est demandé dans 1 Pierre, donc la première épître de Pierre, chapitre 4, versets 10 et 11. Voilà, en bons intendants de la grâce de Dieu, sous ses divers aspects. Donc si on veut vraiment bien utiliser la grâce de Dieu, bien la mettre au service du corps, hein, qu'elle ne soit pas inefficace, quoi, eh bien, que chacun mette au service des autres le don qu'il a reçu. Et après, il est donné aussi des exemples. Si quelqu'un parle, que ce soit selon les oracles de Dieu, donc en donnant la parole de Dieu. Si quelqu'un sert, donc dans l'Église à chaque fois, dans le corps, hein, que ce soit par la force que Dieu lui dispense, afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et là encore, il n'y a pas de différence de niveau. Que quelqu'un parle devant tout le monde, comme je le fais là maintenant avec crainte et tremblement, ou que quelqu'un simplement fasse le ménage de l'église, aux yeux de Dieu, c'est aussi important. S'il le fait de tout son cœur, avec la grâce que Dieu lui a donnée pour ça, avec la capacité que Dieu lui a donnée pour ça, mais c'est aussi important aux yeux de Dieu. C'est une œuvre aussi valable, aussi une des œuvres qui ne seront pas consumées par le feu. Donc c'est pas, il n'y a pas d'échelle de valeur, quoi. C'est vraiment aussi important. Voilà, alors après, on continue la parabole. À l'hôpital, donc pour m'endormir, oui, ils ne m'ont pas endormi complètement, mais ils m'ont fait une anesthésie loco-régionale. Alors, je ne sais pas, c'est un grand mot, hein. Ça veut dire qu'ils vous font une piqûre dans les selles et il y a tout le bras qui est endormi. Pas juste la main, mais tout le bras, depuis le haut du bras jusqu'au bout, petit bout du doigt. Alors, ils attendent que ce soit bien endormi, puis ils font une opération. C'est très bizarre parce qu'on entend tout ce que les chirurgiens disent, surtout s'il y a un assistant qui le fait avec lui. Enfin, bref. C'est très drôle. Il dit, mais qu'est-ce qu'ils sont en train de me faire? On voit rien parce qu'ils mettent un drap, mais bon, on entend tout. Bon. Donc c'est un peu bizarre. Mais après, le bras ne se réveille pas tout de suite. Hein, ils mettent la dose parce qu'ils veulent être sûrs que le bras soit bien endormi, qu'on ne sente pas la douleur. Donc du coup, après, le bras met du temps à se réveiller. Et nous, dans notre tête, on est réveillés, hein, tout à fait. Il n'y a que le bras qui est endormi. Donc on est là, couché, dans la salle de réveil. Il y a des lits à côté, où il peut y avoir des personnes ou pas, ça dépend. Moi, il n'y avait personne à côté. Donc, ils viennent nous voir de temps en temps pour voir si ça se réveille. Mais pendant ce temps-là, ils nous disent, mais tenez votre bras. Alors, moi, je me suis dit, mais pourquoi il faut tenir le bras? Alors, moi, évidemment, j'ai essayé, j'ai lâché. Hein. Donc, j'ai lâché. Bon, mon bras, il est parti tout seul. Il a failli se fracasser sur le lit d'à côté. Bon. Et ça aussi, ça m'a fait... Sur le coup, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe là? Et en fait, c'est tout simplement parce que mes nerfs étaient endormis pour que je ne sente plus la douleur. C'est ça l'anesthésie. Mais les nerfs, ça ne transmet pas seulement les sensations comme la douleur, ça transmet aussi les ordres du cerveau aux membres. Donc quand mes nerfs étaient endormis, les ordres du cerveau ne pouvaient plus passer jusqu'à mon bras, quoi. Donc mon bras ne recevait plus l'ordre de rester bien tranquillement sur moi. Alors il en faisait à sa tête. Comme il ne recevait plus d'ordre, et bien il en faisait à sa tête. Et le résultat, c'était qu'il risquait de se faire mal. Hein. Il a vraiment failli se fracasser sur le lit à côté. Hein. Heureusement que j'ai eu le réflexe de le rattraper et que j'ai pu le rattraper. Quoi. Voilà, voilà. Donc ça aussi, ça m'a fait réfléchir. C'est... En fait, l'Église est le corps du Christ, et il y a un passage donc, qui dit clairement que c'est Jésus qui est le chef, c'est-à-dire la tête du corps. Et les ordres qui passent par les nerfs pour aller dans les membres, ils viennent du cerveau, donc de la tête. Okay? Donc c'est Jésus qui doit donner les ordres au corps du Christ, aux membres du corps du Christ. Et les membres sont censés fonctionner suivant les directives de Jésus. S'ils essayent de fonctionner autrement, par eux-mêmes, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils font des choses qui ne sont pas adaptées, font des choses qui ne sont pas réfléchies, qui sont sans discernement, et ils risquent de se blesser. Donc c'est vraiment une vérité profonde que quelquefois on sous-estime un peu. Hein. On peut avoir l'impression que certaines choses, ce n'est pas si important si Jésus n'est pas participant. Mais non, Jésus est notre chef, la tête du corps de l'Église. Et c'est à nous d'être reliés chacun à la tête, donc d'avoir les nerfs bien vivants, hein, les liens de communication entre Jésus et nous bien vivants, pour pouvoir recevoir ces directives et faire ce qu'il nous montre. Et alors les choses se passent bien, et voilà. Voilà, donc Jésus lui-même, il disait qu'il ne faisait rien que ce qu'il voyait faire au Père. Donc Jésus lui-même, il avait une communication directe avec son Père qui faisait que, voilà, il n'était pas tout seul à faire les choses dans son coin comme il le voulait, mais il était dépendant de son Père. Et de même, nous, on doit être vraiment dépendant de Jésus. Alors ces deux choses-là qu'on a vues, le fait de fonctionner chacun dans l'appel qu'on a reçu et dans les dons qu'on a reçus, et le fait de dépendre de Jésus, ces deux choses, ça conditionne le fait qu'on peut grandir dans le corps. Et ça, on le voit clairement dans un passage aussi, Éphésiens 4, versets 15 et 16. Là encore, j'ai dû prendre la traduction anglaise pour le verset 16. Désolée, mais la traduction française, elle n'est pas à la hauteur, là. Voilà. Donc ce passage, pour le verset 15, la traduction française est très bonne. Éphésiens 4. Donc ça vient après avoir parlé des ministères qui vont permettre au corps de se construire, hein, que tout le monde puisse parvenir à l'unité de la foi, de la connaissance du Fils de Dieu. Donc il est dit ensuite, en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Donc déjà là, on comprend que le fait de croître, de grandir, eh bien c'est lié à Christ. Mais en plus, après c'est clair, parce que c'est de lui. Donc en partant de lui, en dépendant de lui, le corps tout entier bien ordonné et cohérent. Alors jusque-là, ça va. Après, je ne suis plus d'accord. Donc je prends la traduction anglaise. Alors oui, plutôt que bien ordonné et cohérent, la traduction anglaise est plus claire. Elle dit « le corps tout entier uni et tenu ensemble ». Par tous les, alors ce ne sont pas les jointures comme en français, mais les ligaments. Les ligaments, ce sont les tendons. Et mon tendon, en fait, il empêchait mon doigt de bouger. C'était le tendon fléchisseur qui permet de fléchir le doigt, le tendon extenseur qui permet qu'il revienne. Ils étaient cassés, donc ils empêchaient le doigt de bouger parce que les nerfs ne pouvaient plus arriver au doigt. Donc le tendon transmet aussi les ordres du cerveau. Okay? Donc ce qui doit tenir le corps, ce sont les ligaments, les tendons, c'est-à-dire les communications, encore une fois, entre le cerveau, la tête, Jésus et les membres. C'est ça qui tient le corps. Donc de lui, le corps tout entier, tenu et donc uni et tenu ensemble par tous les ligaments qui le soutiennent fermement, tous les tendons qui le soutiennent fermement, qui amènent sa vie au corps et ses directives. Donc le corps grandit et se construit lui-même dans l'amour. Alors là, en français, il est dit « grandit dans la mesure qui convient à chaque partie ». La traduction anglaise, elle ne dit pas ça du tout. Et je crois qu'elle est plus proche du texte original. Elle dit donc « grandit et se construit lui-même dans l'amour, alors que chaque partie fait son propre travail ». C'est tout à fait autre chose. Si on peut grandir, c'est quand on fait c'est ce pourquoi on est fait. Parce que c'est là qu'on apprend qu'on continue à grandir avec Jésus. Si on fait des erreurs, c'est pas grave. Il nous montre pourquoi, et la fois prochaine, eh ben, on a grandi un peu plus. C'est là qu'on apprend. C'est pas quand on essaye de faire d'autres choses et puis qu'on se fait démolir parce que voilà, c'était pas à nous de le faire. Hein. Là, ça ne nous fait pas grandir, ça nous blesse, et après, il faut raccommoder les morceaux, quoi. Mais on apprend quand on marche ensemble, quand on travaille ensemble, chacun faisant ce qu'il a à faire dans le corps, chacun portant sa pierre, quoi. Hein. Et quand on dépend de Jésus en même temps, parce que la vie de Jésus, les directives de Jésus coulent pleinement, et voilà, on peut faire exactement ce qu'il voudrait qu'on fasse, et c'est comme ça qu'on grandit. Peut-être nous, on aurait fait les choses d'une telle manière, hein, on aurait prié d'une telle manière pour quelqu'un, par exemple, et puis Jésus nous dit, mais non, il faut... C'est ça qu'il faut lui dire, c'est pas du tout ce que toi tu pensais. Parce que lui, c'est beaucoup mieux que nous. Voilà, donc c'est ça qui nous permet de grandir, d'être reliés directement à Jésus en permanence, hein, d'avoir les tendons, les nerfs bien en bon état, hein, les moyens de communication bien en bon état, et d'être reliés les uns aux autres et de travailler en complémentarité. Et après l'opération, j'ai dû porter une attelle sur tout mon bras, hein, donc depuis l'avant-bras jusqu'au bout de la main gauche. Et pendant plusieurs semaines, je ne pouvais plus du tout utiliser ce bras. Pas du tout pendant un mois, un petit peu pour quelques petites choses pendant le deuxième mois, et pour un peu plus pendant le troisième mois. Et c'était seulement au bout de 3 mois que je pouvais enfin réutiliser mon bras normalement. Donc ça n'a l'air de rien, mais je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi, qu'est-ce qu'on peut faire avec seulement une main ? Il y a beaucoup de gestes de la vie de tous les jours qu'on est obligé, enfin, où on est obligé d'utiliser les deux mains. Avec une main, ben, c'est vraiment pas facile. Il y a des tas de choses. Hein. Se laver les cheveux, vous utilisez les deux mains. Enfin, vous habiller, faire vos lacets. Des tas de choses. Manger même, parce que pour tenir un couteau et une fourchette, hein, essayer de manger seulement avec la fourchette, c'est pas toujours évident. Il y a certaines choses, ben, on a besoin de les couper, on a besoin des deux. Donc, éplucher des légumes, c'était devenu impossible. Alors j'essayais bien de coincer avec le coude. Bref, j'en rivais tant, mais sur le coup, je riais pas toujours. Hein. C'était un petit peu agaçant quelquefois. Et voilà, donc pour des tas de choses, je me suis rendu compte que les deux mains étaient vraiment importantes. Alors il y avait juste un petit bout de doigt, la dernière phalange d'un doigt, qui était out, hein, qui ne pouvait plus fonctionner. À cause de ça, non seulement le doigt ne pouvait plus fonctionner, mais aussi la main, le poignet. Alors, je ne pouvais pas non plus plier mon poignet. Hein. Et puis le bras tout entier, quoi. Donc... Évidemment, le poignet sans ankylosait, donc voilà. Alors, je retirais la attelle seulement une fois par jour pour les séances de rééducation, mais à chaque fois, je me rendais compte que mon poignet était complètement ankylosé, donc il fallait commencer à faire travailler le poignet, parce que le pauvre, c'était nuit et jour, hein, cette attelle, tout le temps, sauf pendant les séances de kiné. Donc voilà, hein. Et tout ça, ça m'a fait me rendre compte que si un seul membre du corps, qui peut paraître insignifiant, ne fonctionne pas correctement, eh bien, il y a toute une partie du corps qui est vraiment handicapée, quoi, qui ne peut pas non plus fonctionner correctement. Il y a d'autres parties du corps qui doivent essayer de prendre le relais, comme mon coude qui essayait de coincer des choses. Bon. Mais c'était pas, ça ne marchait pas. Donc, il y avait vraiment un manque dans le corps. Donc, il a fallu que d'autres personnes, heureusement que j'ai eu ma sœur Anne qui a été très... très maternelle pour moi et qui m'a aidée dans pas mal de choses. Hein. Donc c'est sûr, Dieu nous bénit quand même, il trouve d'autres moyens de nous bénir et de compenser les manques. Mais n'empêche qu'il y avait un manque dans le corps parce qu'un membre, un petit membre de rien du tout, là, ne fonctionnait pas correctement. Donc c'est vraiment pas anodin. Voilà, donc de même pour nous, hein, si quelqu'un ne fait pas ce à quoi il est appelé, eh bien, il y aura forcément un manque dans le corps. Peut-être on essaiera de le minimiser, peut-être quelqu'un d'autre fera les choses à sa place, mais il y aura un manque dans le corps. Ce ne sera pas fait exactement de la manière dont la personne l'aurait fait. Il y aura quelque chose qui manque. Alors, je ne dis pas ça pour nous culpabiliser, hein, parce que moi-même, je l'ai fait souvent, mais qu'on soit conscient que ce qu'on a à faire dans le corps, personne d'autre ne peut le faire à notre place. On est chacun important. On n'est pas... des électrons libres qui font les choses comme on le veut, ça n'affecte pas les autres, et puis si on ne fait pas ça, bah, quelqu'un d'autre le fera bien. Non, on a chacun une importance, quoi que ce soit qu'on soit appelé à faire dans le corps. Et il y a aussi un texte qui est très clair, donc je l'ai déjà pris tout à l'heure pour un petit passage, Mais là, on va le lire plus complètement. C'est toujours le passage de 1 Corinthiens, mais cette fois-ci du verset, donc 1 Corinthiens 12, du verset 14 au verset 22, parce que ça résume bien tout ce qu'on a vu. Donc avant ça, il est parlé aussi des différents dons qui sont donnés aux uns et aux autres, hein, et que le fait que ce soit l'Esprit Saint qui les distribue à chacun. Mais du verset 14 au verset 22, ça résume bien. Ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait, parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps, il n'en est pas moins du corps pour autant. Donc si quelqu'un dit, parce que je n'ai pas de don de guérison, par exemple, je n'ai pas d'importance dans le corps, puisque les mains, on peut penser que c'est pour venir, pour guérir, eh bien, il est quand même du corps. Ce n'est pas parce qu'il pense ça que c'est la vérité. C'est un mensonge. Si l'oreille disait, parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps, elle n'en est pas moins du corps pour autant. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? Il manquerait quelque chose. S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? En fait, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, si tous étaient faits pareil, où serait le corps ? Il n'y aurait pas de corps. Il y aurait juste un seul membre. C'est tout. Maintenant, donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. Et ensuite, donc, c'est dans l'autre sens. Hein, c'est chacun ne peut pas dire de l'autre non plus qu'il n'est pas important. L'œil ne peut pas dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, ni à la tête, ni la tête dire au pied, je n'ai pas besoin de vous. Mais bien plutôt, les membres qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires. Et là, dans la Bible anglaise, il n'est pas marqué nécessaire, j'ai vérifié, hein, mais il est marqué indispensable. Et c'est beaucoup plus clair. Nécessaire, bon, d'accord. Hein. Mais non, c'est indispensable. Chacun des membres du corps est indispensable. C'est important qu'on se le répète. Quoi que ce soit qu'on fasse, même ce qui paraît le plus faible, le plus insignifiant, d'abord ça ne l'est pas aux yeux de Dieu, et en plus c'est indispensable pour le corps. Voilà, donc qu'on puisse chacun vraiment prendre la place qu'on a à prendre dans le corps, hein, faire ce pour quoi on a été préparé d'avance. Hein. On a tous un domaine particulier où on a des choses à faire. Peut-être plusieurs domaines pour certains, mais c'est pas ça l'important. L'important, c'est qu'on fasse ce pour quoi on est fait, hein, qu'on entre dans les œuvres qui ont été préparées d'avance pour nous et qu'on puisse être ainsi une bénédiction pour le corps d'une part et d'autre part grandir nous-mêmes individuellement et le corps tout entier grandir. Voilà, donc peut-être on peut terminer par la prière. Je ne sais pas si tu veux prier pour... Oui. Et Seigneur, merci parce que ouais, c'est vraiment extraordinaire ce que tu as fait. Ce corps conforme, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement. Mais toi, tu l'as voulu ainsi. Tu as voulu qu'on ait besoin les uns des autres. Tu as voulu qu'on puisse se compléter les uns les autres, qu'on puisse s'apporter les uns aux autres ce qu'on a reçu de toi. Et ouais, c'est vraiment beau, Seigneur. Alors merci de continuer à travailler nos cœurs par rapport à cela. Travailler nos pensées aussi. De continuer à nous montrer les raisonnements qui sont faux, les mensonges qu'on a acceptés par rapport à tout ça. Et que tu puisses vraiment nous aider à mettre en pratique ces vérités, à fonctionner de plus en plus ensemble, à chercher de plus en plus la complémentarité et l'unité dans tout ce qu'on vit dans l'Église, afin que ton corps fasse vraiment ce pour quoi il a été appelé et qu'il puisse vraiment annoncer ton royaume. Merci Seigneur.
Merci Marc-Christine.